Chapitre 14. Les Capétiens jusqu'aux croisades. De l'an 996 à l'an 1108, les trois premiers successeurs de Hugues Capet, son fils Robert, son petit-fils Henri Ier et son arrière-petit-fils Philippe Ier, ont occupé le trône de France, et dans ce long espace de 112 ans, le royaume de France n'a, à vrai dire, point d'histoire. Partagé en vertu du régime féodal entre une multitude de princes indépendants, isolés, à peu près souverains dans leur domaine, n'entretenant des relations un peu fréquentes qu'avec leurs voisins, et à peine liés par quelques règles ou quelques habitudes de vassalité à celui d'entre eux qui portait le titre de roi, la France du XIe siècle n'existait guère que de nom. La Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, l'Aquitaine, le Poitou, l'Anjou, la Flandre, le Nivernais étaient les États et les peuples réels, ayant chacun sa vie, son histoire propre. Un seul événement, la croisade, a réuni vers la fin de ce siècle, dans une pensée et une action commune, ses souverains et ses peuples épars. Jusque-là donc, je ne ferai, mes enfants, que me conformer à la réalité des faits, et vous retracer fidèlement la physionomie de cette époque en ne cherchant pas à y introduire un enchaînement et un ensemble qui lui ont manqué. Je mettrai brièvement sous vos yeux les événements et les personnages isolés qui méritent qu'on s'en souvienne encore et qui sont restés historiques sans avoir été les acteurs d'une histoire nationale. Parmi les événements de cette sorte, un seul, la conquête de l'Angleterre en 1066 par le duc de Normandie, Guillaume le Bâtard, a été trop éclatant et a exercé plus tard trop d'influence sur les destinées de la France pour que, dans le tableau de ce XIe siècle incohérent et décousu, je n'appelle pas dès l'abord sur les conséquences françaises de cette grande aventure normande votre particulière attention. Après le prudent Hugues Capet, les trois premiers Capétiens, Robert, Henri Ier et Philippe Ier, furent des hommes très médiocres, de caractère comme d'esprit, et leur insignifiance personnelle fut l'une des causes de la nullité de l'histoire de France sous leur règne. Robert ne manquait ni d'avantages physiques ni de vertus morales. Il avait la taille élevée, dit son biographe Elgo, archevêque de Bourges, la chevelure lisse et bien arrangée, les yeux modestes, la bouche agréable et douce, la barbe assez fournie et les épaules hautes. Il était versé dans toutes les sciences, suffisamment philosophe et excellemment musicien, tellement appliqué aux saintes lettres qu'il ne passait pas de jour qu'il ne lût le psautier et ne pria le Dieu très haut avec saint David. Il composa plusieurs hymnes sacrés qui furent adoptés par l'Église. Et dans un pèlerinage qu'il fit à Rome, il déposa sur l'autel de Saint-Pierre ses poésies latines notées en musique. Il venait souvent à l'église de Saint-Denis, revêtu de ses habits royaux et la couronne sur la tête. Il y dirigeait le chant à matine, à la messe et à vêpres, chantant avec les moines et les invitant lui-même à chanter. Lorsqu'il siégeait dans le consistoire, il se disait volontiers le client des évêques. Saint Louis prouva deux siècles plus tard que les vertus du saint peuvent se concilier avec les qualités du roi, mais elles ne sauraient les remplacer, et les qualités royales manquaient à Robert. Il n'était ni guerrier ni politique. Rien n'indique qu'il réunit jamais autour de lui pour traiter des affaires de l'État les barons laïcs avec les évêques, et quand il intervint dans les guerres des grands seigneurs féodaux, notamment en Bourgogne et en Flandre, ce fut avec peu d'énergie et d'efficacité. Il n'était guère plus puissant dans sa famille que dans son royaume. Et je vous ai déjà dit que, malgré les conseils de son maître Gerbert, il avait épousé Berthe, veuve d'Eudes, comte de Blois, et il l'aimait tendrement. Mais ce mariage fut attaqué par l'Église pour cause de parenté. Robert résista, puis céda devant l'excommunication prononcée par le pape Grégoire V, et il épousa alors Constance, fille du comte de Toulouse, Guillaume Taillefer. Mais aussitôt, dit le chroniqueur Raoul Glabert, on vit affluer en France et en Bourgogne, à cause de cette reine, les plus vains et les plus légers de tous les hommes venus d'Aquitaine et d'Auvergne. Ils étaient également étranges et déréglés dans leurs mœurs et dans leurs costumes, dans leurs armes et dans l'équipement de leurs chevaux. Les cheveux ne leur descendaient qu'à mi-tête. Ils se rasaient la barbe comme des histrions. Ils portaient des bottes et des chaussures indécentes. Enfin, il n'en fallait pas attendre ni foi ni sûreté dans les alliances. Hélas, cette nation des Francs, autrefois la plus honnête, et les peuples même de la Bourgogne, suivirent ardemment ces exemples criminels, et bientôt ils ne retracèrent que trop fidèlement la perversité et l'infamie de leur modèle. Le mal devint plus grave que le désordre des modes de la cour. Robert eut de Constance 3 fils, Hugues, Henri et Robert. L'aîné d'abord, puis ses 2 frères, irrités par le mauvais caractère et les exigences tyranniques de leur mère, quittèrent le palais du roi et se retirèrent, l'un à Dreux, l'autre en Bourgogne, se livrant dans les domaines royaux et aux environs à toutes sortes de déprédations et d'excès. La réconciliation n'eut lieu qu'à grand-peine, et la paix ne fut pas vraiment rétablie dans la famille royale. La paix était pourtant et partout le vœu et le soin du roi Robert, mais il réussissait mieux à la maintenir avec ses voisins qu'avec ses enfants. En 1006, il était sur le point d'avoir querelle avec l'empereur d'Allemagne, Henri II, plus actif et plus entreprenant, mais heureusement aussi pieux que lui. Les 2 souverains résolurent d'avoir une entrevue sur la Meuse, limite de leurs états. On se demandait dans leur suite lequel des 2 passerait le fleuve pour aller chercher l'entretien sur l'autre rive, c'est-à-dire dans les états de l'autre. Ce serait là s'humilier, disait-on. Les 2 savants princes se souvinrent de cette parole de l'ecclésiastique « Plus tu es grand, plus sois humble en toutes choses ». L'empereur, se levant de grand matin, passa avec quelques-uns des siens sur les terres du roi des Français. Ils s'embrassèrent cordialement. Les évêques célébrèrent, comme il convenait, le sacrement de la messe et ils se mirent à dîner. Le repas terminé, le roi Robert offrit à Henri d'immenses présents en or et en argent et en pierres précieuses, 100 chevaux richement équipés, portant chacun une cuirasse et un casque. Et il ajouta que tout ce que l'empereur ne prendrait pas de ses dons serait autant de retrancher sur leur amitié. Henri, voyant la libéralité de son ami, ne prit de tout cela qu'un livre du Saint-Évangile garni d'or et de pierres précieuses et une amulette en or contenant une dent de Saint-Vincent, lévite et martyr. L'impératrice n'accepta aussi que 2 coupes d'or. Le lendemain, le roi Robert passa avec ses évêques sur les terres de l'empereur, qui le reçut magnifiquement et, après le repas, lui offrit 100 livres d'or pur. Le roi n'accepta aussi que 2 coupes d'or et, après avoir confirmé leur pacte d'amitié, ils retournèrent chacun dans leurs états. J'ajoute à ce résumé du règne de Robert quelques faits qui caractérisent l'époque. C'était en l'an 1000 de Jésus-Christ que, d'après le sens qu'ils attachaient à quelques paroles des livres saints, beaucoup de chrétiens attendaient la fin du monde. L'attente était pleine d'anxiété. Des pestes, des famines, divers accidents qui survinrent alors en divers lieux l'aggravaient encore. Les églises étaient combles, les pénitences, les donations, les affranchissements, tous les actes d'invocation et de repentir se multipliaient rapidement. Une foule d'âmes, soumises ou épouvantées, se préparaient à paraître devant leurs juges. Après quelle catastrophe, au milieu de quelles ténèbres ou de quelles lumières, question redoutable dont les imaginations s'épuisaient à pressentir la solution. Quand le dernier jour du 10e et le premier jour du 11e siècle furent passés, ce fut comme une renaissance générale. On eût dit que le temps recommençait. On se mit à l'œuvre pour rendre le monde chrétien digne de l'avenir. Surtout en Italie et en Gaule, dit le chroniqueur Raoul Glaber, on entreprit la reconstruction des basiliques, quoique la plupart n'en eussent pas besoin. Les peuples chrétiens semblaient rivaliser entre eux à qui élèverait les plus belles. C'était comme si le monde, se secouant lui-même et rejetant ses vieux vêtements, avait voulu se parer de la robe blanche chrétienne. L'art chrétien, sous la première forme du style gothique, date de cette époque. La puissance et la richesse de l'Église chrétienne dans ses diverses institutions prirent dans cette crise de l'imagination humaine un nouvel élan. D'autres faits, les uns déplorables, les autres salutaires, commencèrent vers cette époque à prendre dans notre histoire une place qui devait bientôt y devenir grande. Débûchés s'élevèrent d'abord à Orléans, puis à Toulouse, pour le châtiment des hérétiques. Les manichéens étaient les hérétiques du jour. Le roi Robert et la reine Constance assistèrent à ce retour des sacrifices humains offerts à Dieu comme une peine infligée aux violateurs intellectuels de sa parole. Un redoublement de colère contre les Juifs éclata en même temps. « Qu'avons-nous à faire, disait-on, d'aller au loin faire la guerre aux musulmans ? N'avons-nous pas au milieu de nous les plus grands ennemis de Jésus-Christ ? » Entre chrétiens, les actes d'oppression et de violence des grands envers les petits devinrent si excessifs et si fréquents qu'ils suscitèrent dans les campagnes, spécialement en Normandie, des insurrections que les insurgés essayèrent d'organiser en résistance permanente. Dans plusieurs comtés de la Normandie, dit Guillaume de Jumièges, tous les paysans se réunissant dans des conventicules résolurent de vivre selon leur volonté et leurs propres lois, aussi bien dans l'intérieur des forêts que le long des rivières, et sans se soucier d'aucun droit établi. Et pour accomplir ce dessein, ces agglomérations furieuses élurent chacune deux députés qui devaient former, au milieu des terres, une assemblée chargée de faire exécuter leurs décrets. Dès que le duc Richard II en fut informé, il envoya une grande troupe d'hommes de guerre pour réprimer cette audace des campagnes et dissiper cette assemblée rustique. En exécution de ces ordres, les députés des paysans et beaucoup d'autres rebelles furent aussitôt arrêtés. On leur coupa les pieds et les mains et on les renvoya ainsi mutilés chez eux pour détourner leurs pareils de telles entreprises et les rendre plus prudents, crainte de pire. Après cette expérience, les paysans cessèrent leurs réunions et retournèrent à leurs charrues. Je traduis littéralement le moine chroniqueur. Il était loin d'être favorable aux paysans insurgés, et il applaudissait à la répression bien plutôt qu'il ne justifiait l'insurrection. La répression, efficace sans doute pour le moment et dans les lieux spéciaux qu'elle atteignait, ne fut point d'un effet général ni durable. Environ un siècle après le froid récit de Guillaume de Jumièges, un chroniqueur poète, Robert Wasse, dans son roman de Roux, Histoire en vers de Roland et des premiers ducs de Normandie, racontait les mêmes faits avec bien plus de passion sympathique et de coloris poétiques. « Les seigneurs ne nous font que du mal, fait-il dire aux paysans normands. Avec eux, nous n'avons ni gain ni profit de nos labeurs. Chaque jour est pour nous jour de souffrance, de peine et de fatigue. Chaque jour, on nous prend nos bêtes pour les corvées et les services. » Plaintes et griefs, exactions anciennes et nouvelles, des plaides et des procès sans fin, plaides de monnaie, plaides de marché, plaides de route, plaides de forêt, plaides de monture, plaides de maltote, plaides d'aguets. Il y a tant de prévôts et de baillis, tant de sergents, que nous n'avons pas une heure de paix. Tous les jours, ils nous coursussent, prennent nos meubles et nous chassent de nos terres. Il n'y a nulle garantie pour nous contre les seigneurs, et nul pacte ne tient avec eux. Pourquoi nous laisser faire tout ce mal et ne pas sortir de peine ? Ne sommes-nous pas des hommes comme eux ? N'avons-nous pas la même taille, les mêmes membres, la même force pour souffrir ? Il nous faut seulement du cœur. Lions-nous donc ensemble par un serment. Jurons de nous soutenir l'un l'autre. Et s'ils veulent nous faire la guerre, n'avons-nous pas, pour un chevalier, 30 ou 40 paysans jeunes, dispos et prêts à combattre à coups de massue, à coups d'épieu, à coups de flèche, à coups de hache ou à coups de pierre, s'ils n'ont pas d'armes ? Sachons résister aux chevaliers, et nous serons libres de couper des arbres, de courir le gibier et de pêcher à notre guise, et nous ferons notre volonté sur l'eau, dans les champs et au bois. » Vous le voyez, mes enfants, ce n'est plus là le bref récit et la sévère appréciation d'un spectateur indifférent. C'est le cri de la colère et de la vengeance populaire reproduit par la vive imagination d'un poète irrité. À coup sûr, les paysans normands du XIIe siècle ne parlaient pas de leur misère avec l'habileté descriptive et la passion philosophique que leur prête Robert Wasse. Ils ne méditaient pas la révolution démocratique dont il leur attribue l'idée et presque le plan, mais les actes de violence et d'oppression contre lesquels ils se soulevaient étaient très réels et ils s'efforçaient d'échapper par des violences réciproques à des souffrances intolérables. De là ces alternatives de révolte démagogique et de répression tyrannique qui ont si souvent ensanglanté notre territoire et mis en péril les fondements mêmes de l'ordre social. Les insurrections devenaient si atroces qu'on trouvait aussi simple que nécessaire les châtiments atroces qu'on leur infligeait. Il a fallu de longs siècles, des guerres civiles répétées et de terribles secousses politiques pour mettre fin à ce chaos brutal qui enfantait tant de maux et de crimes réciproques et pour amener entre les diverses classes de la population française des rapports équitables et vraiment humains, tant le mal est prompt et contagieux parmi les hommes et difficile à extirper au nom de la justice et de la vérité. Pourtant, même au sein de cet égoïsme cruel et de cette irréflexion grossière des Xe et XIe siècles, la nécessité morale et sociale de lutter contre de si odieux désordres se faisait sentir et trouvait de zélés apôtres. C'est de cette époque que datent les premiers efforts pour établir dans diverses parties de la France ce qu'on appela la paix de Dieu, la trêve de Dieu, mot bien choisi pour interdire à la fois l'oppression et la révolte, car il ne fallait rien moins que la loi et la voix de Dieu pour réprimer un peu les mœurs et les passions barbares des hommes, grands ou petits, seigneurs ou paysans. C'est le propre et le glorieux caractère du christianisme d'avoir si bien connu le mal primitif et permanent de la nature humaine qu'il a combattu toutes les grandes iniquités humaines et les a signalées en principe, même lorsque, en fait, général, il n'espérait pas et ne tentait pas de les abolir. Des évêques, des prêtres, des moines furent, dans leur vie personnelle et dans les conciles de l'Église, les premiers propagateurs de la paix ou de la trêve de Dieu, et dans plus d'un lieu, ils décidèrent les seigneurs laïcs à poursuivre la même tentative. En 1164, Hugues II, comte de Rodez, de concert avec son frère Hugues, évêque de Rodez, et les notables du pays, établit la paix dans le diocèse de Rodez. Et c'est, disaient au XVIIIe siècle les savants bénédictins dans « L'art de vérifier les dates », ce qui a donné l'origine au droit de commune paix ou de la pesade qu'on lève encore dans le Rouergue. Le roi Robert se montra constamment favorable à ce pacifique travail. Il est le premier des cinq rois de France, d'ailleurs très divers, lui, Saint-Louis, Louis XII, Henri IV et Louis XVI, qui se sont particulièrement signalés par une bonté sympathique et par leur préoccupation du bien-être populaire. Robert aimait les faibles et les pauvres. Non seulement il les protégeait dans l'occasion contre les puissants, mais il s'appliquait à cacher leurs fautes et il se laissait voler sans bruit dans son église ou à sa table pour ne pas avoir à dénoncer et à punir les voleurs. Aussi, il y eut à sa mort, dit son biographe Elgo, un grand deuil et une douleur intolérable. Un nombre infini de veuves et d'orphelins regrettaient tant de bienfaits reçus de lui. Il se frappait la poitrine, allait et venait au saint tombeau, criant « Tant que Robert a régné et commandé, nous avons vécu tranquille, nous n'avons rien craint, que l'âme de ce père pieux, ce père du Sénat, ce père de tout bien, soit heureuse et sauvée, qu'elle monte et habite toujours avec Jésus-Christ, roi des rois. » Moins pieux et moins bon que Robert, son fils Henri Ier et son petit-fils Philippe Ier ne furent pas des rois plus actifs ni plus glorieux. Pendant leur long règne, aucun dessein important et bien suivi ne présida à leur gouvernement. Leur vie politique se passait tantôt en petites guerres sans résultat décisif contre tel ou tel de leurs vassaux, tantôt en actes d'intervention capricieuse dans les querelles de leurs vassaux entre eux. Leur vie domestique n'était ni plus régulière ni conduite avec plus de sagesse et de préoccupation de l'intérêt public. Le roi Robert n'avait pu réussir à garder sa première femme, Berthe de Bourgogne, et la seconde, Constance d'Aquitaine, impérieuse, haineuse, avare, tracassière, l'opprimait à ce point qu'il ne récompensait jamais un de ses serviteurs sans lui dire « Prends garde que Constance ne le sache ». Après la mort de Robert, Constance, devenue régente pour son fils aîné Henri Ier, conspira aussitôt pour le détrôner et le remplacer par son second fils Robert, qu'elle lui préférait. Délivré par la mort du joug et des intrigues de sa mère, Henri se maria trois fois. Mais ses deux premiers mariages avec deux princesses allemandes, filles l'une de l'empereur Conrad le Salique, l'autre de l'empereur Henri III, eurent si peu de succès qu'en 1051, il envoya chercher en Russie, à Kiev, sa troisième femme, Anne, fils du tsar Yaroslav le Boiteux, princesse modeste qui vécut sans bruit jusqu'à la mort du roi son mari en 1060 et qui, 2 ans après, sous le règne de Philippe Ier, son fils, plutôt que de retourner dans sa patrie, se remaria avec Raoul, comte de Valois, qui répudia pour l'épouser sa seconde femme, Aquenée, dite Éléonore. Le divorce fut attaqué à Rome devant le pape Alexandre II, à qui l'archevêque de Reims écrivit à ce sujet « Notre royaume est agité par de grands troubles. La reine-mère a épousé le comte Raoul, ce qui cause un grand déplaisir au roi. Quant à la dame que Raoul a répudiée, nous avons reconnu la justice des plaintes qu'elle vous a portées et la fausseté des prétextes sous lesquels il l'a renvoyée. » Le pape enjoignit au comte de reprendre sa femme. Raoul n'obéit point et fut excommunié, mais il n'en tint compte, et la princesse Anne de Russie, réconciliée même à ce qu'il paraît avec Philippe Ier, vécut tranquillement en France où, en 1075, peu après la mort de son second mari, le comte Raoul, elle signait encore un diplôme à côté du nom du roi son fils. Les mariages de Philippe Ier furent encore plus troublés et plus scandaleux que ceux de son père et de son grand-père. À 19 ans, en 1072, il avait épousé Berthe, fille de Florent Ier, comte de Hollande, et en 1078, il eut d'elle le fils qui devait lui succéder sous le nom de Louis le Gros. Mais 20 ans plus tard, en 1092, Philippe se dégoûta de sa femme, la répudia et la relégua à Montreuil-sur-Mer sous prétexte de parenté prohibée. Il s'était épris, on ne sait pas quand, d'une passion violente pour une femme célèbre par sa beauté, Bertrade, quatrième femme depuis 3 ans de Foulque le Réchin, comte d'Anjou. Berthe ainsi congédiée, Philippe partit pour Tours où Bertrade se trouvait avec son mari. Là, dans l'église de Saint-Jean, pendant qu'on bénissait les fonts baptismaux, ils s'engagèrent l'un à l'autre. Philippe repartit et quelques jours après, Bertrade, enlevée par des gens qu'il avait laissés aux environs de Tours, vint le rejoindre à Orléans. Presque tous les évêques de France, entre autres le plus savant et le plus respecté d'entre eux, Yves, évêque de Chartres, se refusèrent à bénir ce choquant mariage. Le roi eut grand-peine à trouver un prêtre qui lui rendit cet office. Alors commença entre Philippe Ier et les chefs de l'Église catholique, pape et évêque, une lutte qui, de négociation en négociation et d'excommunication en excommunication, dura 12 ans, sans que le roi pût parvenir à faire reconnaître canoniquement son mariage. Il promettait de renvoyer Bertrade, et non content de la garder, il se moquait ouvertement des excommunications et des interdits. C'était l'usage, dit Guillaume de Malmesbury, que dans les lieux où le roi séjournait, le service divin cessa, et dès qu'il s'éloignait, toutes les cloches se mettaient en branle. Philippe s'écriait alors en riant comme un fou « Entends-tu, ma belle, comme on nous chasse ?» Enfin, en 1104, l'évêque de Chartres, lui-même, lassé par l'obstination du roi et par le spectacle du trouble où l'interdit prolongé jetait le royaume, écrivit au pape Pascal II « Je ne prétends pas vous donner des conseils. Je veux seulement vous avertir qu'il serait bon d'user pour le moment de quelque condescendance envers les faiblesses de l'homme, autant que le permet son salut, et de retirer le pays de l'état critique où le plonge l'excommunication de ce prince. » Le pape donna en conséquence ses instructions aux évêques du royaume. Sur la convocation du roi, ils se réunirent à Paris le 1er décembre 1104, et l'un d'entre eux, Lambert, évêque d'Arras, écrivit au pape « Nous avons député au roi les évêques Jean d'Orléans et Galon de Paris, chargés de lui demander s'il voulait se conformer aux clauses et aux conditions exprimées dans vos lettres et s'il était décidé à renoncer au commerce illégitime qu'il avait rendu coupable devant Dieu. » Le roi ayant répondu, sans se déconcerter, qu'il voulait satisfaire à Dieu et à la Sainte Église romaine, a été introduit dans l'assemblée. Il est arrivé nu-pieds, dans une attitude dévote et humble, désavouant son péché et promettant de purger l'excommunication par des œuvres expiatoires. C'est ainsi que, par votre autorité, il a mérité d'être absous. Mettant alors la main sur le livre des saints évangiles, il a fait serment, en ces termes, de renoncer à son mariage coupable et illégitime. Écoute, toi Lambert, évêque d'Arras, qui tiens ici la place du pontife apostolique, que les archevêques et les évêques ici présents m'écoutent. Moi, Philippe, roi des Français, je promets de ne plus retourner à mon péché et de rompre entièrement le commerce criminel que j'ai entretenu jusqu'ici avec Bertrade. Je promets que je n'aurai désormais aucun entretien ni aucune société avec elle, si ce n'est en présence de personnes non suspectes. J'observerai fidèlement et sans détour ses promesses, dans le sens que représentent les lettres du pape, et comme vous l'entendez, ainsi Dieu me soit en aide et ses sacrés évangiles de Jésus-Christ. Bertrade, au moment d'être relevé de l'excommunication, a fait en personne le même serment sur les saints évangiles. De l'aveu des savants bénédictins qui ont étudié cette royale aventure, il est permis de douter que Philippe Ier ait rompu tout commerce avec Bertrade. 2 ans après son absolution, le 10 octobre 1106, il arriva à Angers un mercredi, dit un chroniqueur contemporain, accompagné de la reine nommée Bertrade, et il y fut reçu par le comte Foulque et par tous les angevins, clercs et laïcs, avec de grands honneurs. Le lendemain de son arrivée, qui était un jeudi, les moines de Saint-Nicolas, introduits par la reine, se présentèrent devant le roi, le priant humblement, de concert avec la reine, d'approuver, pour le salut de son âme et de la reine, de ses parents et de ses amis, toutes les acquisitions par eux faites dans ses états, ou qu'il pourrait faire à l'avenir, par don ou par achat, et de vouloir bien apposer son sceau à leur titre de propriété. Le roi a accordé leur demande. Le plus complet des chroniqueurs de ce temps, Orderic Vital, dit à propos de cette réunion à Angers des deux maris de Bertrade. Cette adroite femme avait si bien, par son savoir-faire, réconcilié ses deux rivaux qu'elle leur prépara un splendide repas, les fit asseoir tous deux à la même table, leur fit dresser des lits, la nuit suivante, dans la même chambre, et les servait à leur gré. Le plus judicieux des historiens comme des hommes d'État du XIIe siècle, l'abbé Sugère, ce fidèle ministre de Louis le Gros qui ne peut être suspect de faveur pour Bertrade, s'exprime ainsi sur son compte. Cette femme enjouée et d'une instruction rare, admirablement versée dans l'art familier à son sexe de captiver les maris après les avoir outragés, avait pris un tel empire sur le comte d'Anjou, son premier mari, malgré l'affront qu'elle lui avait fait de l'abandonner, qu'il la traitait avec respect comme sa souveraine, s'asseyait souvent sur un tabouret à ses pieds et obéissait à sa volonté comme par une sorte de prestige. Je reproduis textuellement ces détails, mes enfants, comme la plus fidèle image de la place que tenaient dans l'histoire de ce temps les mœurs et la vie privée des rois. N'en tirez cependant pas, quant à l'abaissement de la royauté capétienne, au XIe siècle, des conséquences trop rigoureuses. Il y a des désordres et des scandales que les grandes qualités et la gloire personnelle des princes peuvent, non pas excuser, mais faire par moments oublier. Et à coup sûr, les 3 capétiens qui succédèrent aux fondateurs de leur dynastie n'offraient au peuple aucune compensation semblable. Mais il ne faut pas croire qu'ils fussent tombés dans la condition des mérovingiens fainéants ou des derniers carlovingiens errant presque sans asile. L'état de la société et de la royauté française était profondément changé. En dépit de leur médiocrité politique et de leur indolence licencieuse, Robert, Henri Ier et Philippe Ier n'étaient point, au XIe siècle, des personnages insignifiants, sans autorité ou sans influence efficace, et avec qui leurs contemporains ne fussent pas obligés de compter. Ils étaient de grands seigneurs propriétaires de vastes domaines, dans lesquels ils exerçaient sur la population une souveraineté presque absolue. Ils avaient, il est vrai, autour d'eux, des rivaux, grands propriétaires et souverains presque absolus comme eux, quelquefois plus forts qu'eux matériellement et plus actifs ou plus habiles intellectuellement, mais dont ils restaient pourtant les supérieurs à 2 titres, comme suzerain et comme roi. Leur cour était la plus honorée et leur alliance toujours fort recherchée. Ils occupaient le premier rang dans la société féodale et un rang unique dans l'état politique tel qu'il se formait lentement au milieu des souvenirs et des traditions de la royauté juive, de la royauté barbare et de l'Empire romain, un moment relevé par Charlemagne. la royauté française au XIe siècle était le seul pouvoir investi d'un triple caractère. Un caractère germanique, un caractère romain et un caractère religieux. Ses possesseurs étaient à la fois les chefs des conquérants du sol, les successeurs des empereurs romains et de Charlemagne, les délégués et les représentants laïcs du Dieu des chrétiens. Quelles que fussent leurs faiblesses et leur insuffisance personnelle, ils n'étaient point les titulaires d'un pouvoir en décadence, et la situation royale restait forte et pleine d'avenir, comme les événements ne tardèrent pas à le démontrer. Comme la royauté, la société française du XIe siècle, en dépit de sa dislocation en petites sociétés incohérentes et turbulentes, n'était nullement en décadence. Les ambitions désordonnées, les haines et les querelles de voisinage ou de parenté, les violences princières et populaires s'y renouvelaient sans cesse. Mais l'énergie des caractères, l'activité des esprits, la persévérance des volontés et l'ardeur des libertés individuelles n'y manquaient point, et elles se déployaient avec passion, à tout risque, tantôt par des emportements brutaux ou cyniques que suivaient quelquefois des repentances et des expiations ferventes, tantôt par des actes de sagesse courageuse et de piété désintéressée. Au commencement du XIe siècle, Guillaume III, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, était l'un des plus puissants et des plus honorés princes de son temps. Et tous les souverains de l'Europe lui envoyaient des ambassades comme à leur égal. Il faisait tous les ans, par dévotion, un voyage à Rome, et il était reçu avec les mêmes honneurs que l'empereur. Il aimait les lettres, donnait à la lecture les premières heures de la nuit, et les clercs savants l'appelaient un autre mécène. Peu touché de ses succès mondains, mêlés de tant de travail et de mécomptes, il refusa la couronne d'Italie qu'on lui offrit à la mort de l'empereur Henri II, et il finit, comme Charles Quint quelques siècles plus tard, par aller chercher dans un monastère l'isolement du monde et le repos. Mais dans les mêmes domaines et à la fin du même siècle, son petit-fils Guillaume VII fut le plus vagabond, le plus dissolu et le plus violent des princes. Ses mœurs étaient si scandaleuses que l'évêque de Poitiers, après l'avoir inutilement averti, se crut obligé de l'excommunier. Le duc entra brusquement dans l'église, traversa la foule l'épée à la main et saisit le prélat par les cheveux en lui disant « Tu m'absoudras ou tu mourras ». L'évêque demanda un moment pour réfléchir, en profita pour prononcer la formule d'excommunication et, baissant aussitôt la tête devant le duc, il lui dit « Frappe !» « Je ne t'aime pas assez pour t'envoyer au paradis !» lui répondit Guillaume, et il se borna à le chasser de son siège. À l'emportement, le duc d'Aquitaine substituait quelquefois l'insulte moqueuse. Un autre évêque d'Angoulême, parfaitement chauve, l'exhortait aussi à changer de vie. « J'en changerai, lui dit le duc, quand avec un peigne tu ramèneras tes cheveux sur ton front. » Un autre grand seigneur du même siècle, Foulque le Noir, comte d'Anjou, à la fin d'une vie habile et glorieuse, avait remis à son fils Géoffroy Martel l'administration de son comté. Le fils, aussi hautain et aussi dur envers son père qu'envers ses sujets, prit des armes contre lui et lui enjoignit de déposer les signes extérieurs du pouvoir qu'il portait encore. Le vieillard, irrité, retrouvant la vigueur et l'habileté de sa jeunesse, lutta si énergiquement et avec tant de succès contre son fils qu'il le réduisit à faire plusieurs milles, rampant sur la terre, dit la chronique, avec une selle sur le dos, et à venir se prosterner à ses pieds. Quand il eut son fils ainsi humilié devant lui, Foulque le frappa du pied en répétant plusieurs fois ces seuls mots « Tu es vaincu, tu es vaincu !»« Oui, vaincu, dit Géoffroy, mais par toi seul, parce que tu es mon père. Pour tout autre, je suis invincible. » La colère du vieillard tomba soudain. Il ne pensa plus qu'à consoler son fils de l'affront qu'il venait de lui infliger, et il lui rendit le pouvoir en l'exhortant seulement à se conduire avec plus de sagesse et de douceur envers ses sujets. Tout était inconséquence et contraste dans ces âmes fortes, grossières et brusques. Peu leur importait de se démentir quand elles avaient satisfait leur passion du moment. Entre les deux grandes puissances de ce temps, les seigneurs laïcs et les moines, les relations n'étaient pas moins âpres ni moins mobiles qu'entre les laïcs eux-mêmes, et quand la ruse s'y mêlait, Ce qui arrivait souvent, elle n'en excluait pas la violence. Vers le milieu du XIIe siècle, l'abbaye de Tournus en Bourgogne avait à Louance un petit port où elle percevait sur le sel un droit dont chaque année elle distribuait le produit aux pauvres dans la première semaine du carême. Girard, comte de Mâcon, établit un droit semblable à très peu de distance. Les moines de Tournus réclamèrent. Il n'en fit nul cas. Longtemps après, il vint à Tournus avec une brillante suite et entra dans l'église de Saint-Philibert. Il s'était arrêté seul devant l'autel pour se mettre en oraison. Un moine, la crosse en main, sortit tout à coup de derrière l'autel et, s'arrêtant devant le comte, « Comment es-tu si hardi ?» lui dit-il, « que d'entrer dans mon monastère et dans mon église, toi qui ne crains pas de m'enlever mes droits. » Et prenant Girard par les cheveux, il le jeta à terre et le battit rudement. Stupéfait et contrit, le comte reconnut son tort, supprima le droit qu'il avait indûment établi, et, non content de cette réparation, il envoya à l'église de Tournus un riche tapis de soie tissu d'or. Au milieu du XIe siècle, Adhémar II, vicomte de Limoges, eut dans sa ville, avec les moines de l'abbaye de Saint-Martial, une querelle de toute autre sorte. L'abbaye était tombée dans un grand relâchement de discipline et de mœurs. Le vicomte avait à cœur de la réformer. Il se concerta de loin dans ce dessein avec Hugues, abbé de Cluny, le plus célèbre alors et le plus respecté des monastères. L'abbé de Saint-Martial mourut. Adhémar fit venir à Limoges des moines de Cluny, les logea secrètement près de son palais, se rendit à l'abbaye de Saint-Martial après en avoir fait convoquer le chapitre et somma les moines de procéder sur le champ à l'élection d'un nouvel abbé. Un vif débat s'éleva à ce sujet entre le vicomte et les moines. « Nous n'ignorons pas, lui dit l'un d'eux, que vous avez fait venir des religieux de Cluny pour nous chasser d'ici et les mettre à notre place, mais vous ne réussirez pas. » Le vicomte éclata, prit par la manche le moine qui réclamait et l'entraîna violemment hors du monastère. Effrayés, ses confrères prirent la fuite. Adhémar fit appeler sur le champ les moines de Cluny et les mit en possession de l'abbaye. Le procédé était brutal, mais la réforme était populaire dans Limoges et fut accomplie. Ces petits faits, mes enfants, sont de fidèles échantillons du caractère dominant et original de la société française pendant les Xe, XIe et XIIe siècles, véritable époque du Moyen-Âge. C'était le chaos et la fermentation dans le chaos, la fermentation de la vie désordonnée, lente et dure, mais puissante et féconde. Dans les idées, dans les événements, dans les hommes, se réunissaient les plus étranges contrastes. Les mœurs étaient grossières, féroces même, et les âmes pleines d'aspirations élevées et tendres. L'autorité des croyances religieuses tantôt s'évanouissait, tantôt se déployait avec l'éclat en face des passions mondaines, arrogantes et brutales. L'ignorance était profonde, et au sein de la nuit intellectuelle, apparaissaient çà et là d'ardents foyers de mouvement et de travail intellectuel. C'était le temps où Abélard, devançant la liberté de la pensée et de l'enseignement, attirait sur la montagne Sainte-Geneviève des milliers d'auditeurs empressés à le suivre dans l'étude des grands problèmes de la nature et de la destinée de l'homme et du monde. Et, loin de cette foule, dans la solitude de l'abbaye du Bec, Saint Anselme donnait à ses moines une démonstration chrétienne et philosophique de l'existence de Dieu. « La foi cherchant l'intelligence, fides quaerens intellectum », disait-il lui-même. C'était aussi le temps où, désolé de la licence qui se répandait dans l'Église comme dans la société civile, deux moines illustres, Saint Bernard et Saint Norbert, non seulement allaient prêchant partout la réforme des mœurs, mais travaillaient et réussissaient à établir dans la vie monastique un régime de discipline et d'austérité forte. C'était enfin le temps où, dans le monde laïque, naissait et se développait le fait le plus brillant du Moyen-Âge, la chevalerie, ce noble élan des imaginations et des âmes vers l'idéal de la vertu chrétienne et de l'honneur guerrier. Je ne puis, mes enfants, vous raconter avec détail l'origine et l'histoire de ce grand fait qui a tenu tant de place dans les temps auxquels il a appartenu et qui en tient tant encore dans la mémoire des hommes. Mais je voudrais vous en faire bien connaître le caractère moral et aussi la valeur pratique. J'emprunterai, pour y réussir, quelques pages à mon histoire de la civilisation en France. je vous ferai assister d'abord à la réception d'un chevalier, telle qu'elle avait lieu au XIIe siècle. Vous verrez ensuite quelles règles de conduite lui étaient imposées, non seulement par les serments qu'il prêtait en devenant chevalier, mais par l'idée que se formaient de la chevalerie les poètes du temps, ces interprètes non de la réalité sociale, mais du sentiment humain. Vous comprendrez sans peine alors quelle influence devait exercer dans l'âme et la vie des hommes de tels sentiments et de telles règles, quelque grand que fût le désaccord entre l'idéal chevaleresque et les actions ou les passions ordinaires des contemporains. Le jeune homme, l'écuyer qui aspirait au titre de chevalier, était d'abord dépouillé de ses vêtements et mis au bain, symbole de purification. Au sortir du bain, on le revêtait d'une tunique blanche, symbole de pureté, d'une robe rouge, symbole du sang qu'il était tenu de répandre pour le service de la foi, et d'une scée ou juste au corps noir, symbole de la mort qu'il attendait, ainsi que tous les hommes. Ainsi purifié et vêtu, le récipiendaire observait pendant 24 heures un jeûne rigoureux. Le soir venu, il entrait dans l'église et y passait la nuit en prière, quelquefois seul, quelquefois avec un prêtre et des parrains qui priaient avec lui. Le lendemain, son premier acte était la confession. Après la confession, le prêtre lui donnait la communion. Après la communion, il assistait à une messe du Saint-Esprit et ordinairement à un sermon sur les devoirs des chevaliers et de la vie nouvelle où il allait entrer. Le sermon fini, le récipiendaire s'avançait vers l'autel, l'épée de chevalier suspendue à son cou. Le prêtre la détachait, la bénissait et la lui remettait au cou. Le récipiendaire allait alors s'agenouiller devant le Seigneur qui devait l'armer chevalier. « À quel dessein, lui demandait le Seigneur, désirez-vous entrer dans l'ordre ? Si c'est pour être riche, pour vous reposer et être honoré sans faire honneur à la chevalerie, vous en êtes indigne et vous seriez à l'ordre de chevalerie que vous recevriez ce que le clerc simoniaque est à la prélature. » Sur la réponse du jeune homme, qui promettait de se bien acquitter des devoirs de chevalier, le Seigneur lui accordait sa demande. Alors s'approchaient des chevaliers et quelquefois des dames pour revêtir le récipiendaire de tout son équipement. On lui mettait, premièrement, les éperons, deuxièmement, le haubert ou la cotte de maille, troisièmement, la cuirasse, quatrièmement, les brassards et les gantelets, cinquièmement, enfin, on lui saignait l'épée. Il était alors ce qu'on appelait « adoubé », c'est-à-dire « adopté », selon Ducange. Le Seigneur se levait, allait à lui et lui donnait l'accolade ou accolé, trois coups du plat de son épée sur l'épaule ou sur la nuque et quelquefois un coup de la paume de la main sur la joue en disant « Au nom de Dieu, de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te fais chevalier ». Et il ajoutait quelquefois « Sois preux, hardi et loyal ». Le jeune homme ainsi armé chevalier, on lui apportait son casque, on lui amenait un cheval, il sautait dessus, ordinairement sans le secours des étriers, et il caracolait en brandissant sa lance et faisant flamboyer son épée. Il sortait enfin de l'église et allait caracoler sur la place, au pied du château, devant le peuple, avide de prendre sa part du spectacle. Voilà ce qu'était la partie, pour ainsi dire, extérieure et matérielle, de la réception des chevaliers. Un soin constant s'y manifeste d'associer la religion à toutes les phases d'un événement si personnel. Ce que le christianisme a de plus auguste, ses sacrements y prennent place. Plusieurs des cérémonies sont assimilées, autant qu'il se peut, à l'administration des sacrements. Poursuivons notre examen. Entrons au fond de la chevalerie, dans son caractère moral, dans les idées, les sentiments dont on s'est forcé de pénétrer le chevalier, ici encore, l'influence religieuse sera évidente. Le chevalier avait à prêter des serments en 26 articles. Ces articles ne formaient pas un acte unique, rédigé en une fois et d'ensemble. C'est le recueil des serments exigés des chevaliers à diverses époques et d'une façon plus ou moins complète, du XIe au XIVe siècle. Les récipiendaires juraient, premièrement, de craindre, révérer, servir Dieu religieusement, de combattre pour la foi de toutes leurs forces et de mourir plutôt de 1000 morts que de renoncer jamais au christianisme. Deuxièmement, de servir leur prince souverain fidèlement et de combattre pour lui et la patrie très valeureusement. Troisièmement, de soutenir le bon droit des plus faibles, comme des veuves, des orphelins et des demoiselles, en bonne querelle, en s'exposant pour eux selon que la nécessité le requérait, pourvu que ce ne fût pas contre leur honneur propre ou contre le roi ou prince naturel. Quatrièmement, qu'ils n'offenseraient jamais aucune personne malicieusement, ni n'usurperaient le bien d'autrui, mais plutôt qu'ils combattraient ceux qui le feraient. Cinquièmement, que l'avarice, la récompense, le gain et le profit ne les obligeraient à faire aucune action, mais la seule gloire et vertu. Sixièmement, qu'ils combattraient pour le bien et le profit de la chose publique. Septièmement, qu'ils tiendraient et obéiraient aux ordres de leurs généraux et capitaines qui auraient droit de les commander. Huitièmement, qu'ils garderaient l'honneur, le rang et l'ordre de leurs compagnons, et qu'ils n'empiéteraient rien, par orgueil ni par force, sur aucun d'eux. Neuvièmement, qu'ils ne combattraient jamais accompagnés contre un seul, et qu'ils fuiraient toutes fraudes et supercheries. Dixièmement, qu'ils ne porteraient qu'une épée à moins qu'ils ne fussent obligés à combattre contre deux ou plusieurs. Onzièmement, que dans un tournoi ou autre combat à plaisance, ils ne se serviraient jamais de la pointe de leurs épées. Douzièmement, qu'étant pris en un tournoi prisonnier, ils seraient obligés, par leur foi, par leur honneur, d'exécuter de point en point les conditions de l'emprise, outre qu'ils seraient obligés de rendre aux vainqueurs leurs armes et leurs chevaux, s'ils les voulaient avoir, et ne pourraient combattre en guerre ni ailleurs sans leur congé. Treizièmement, qu'ils garderaient la foi inviolablement à tout le monde, et particulièrement à leurs compagnons, soutenant leur honneur et profit entièrement en leur absence. Quatorzièmement, qu'ils s'aimeraient et s'honoreraient les uns les autres, et se porteraient aide et secours toutes les fois que l'occasion se présenterait. Quinzièmement, qu'ayant fait vœu ou promesse d'aller en quelque quête ou aventure étrange, ils ne quitteraient jamais les armes si ce n'est pour le repos de la nuit. Seizièmement, qu'en la poursuite de leur quête ou aventure, ils n'éviteraient point les mauvais et périlleux passages, ni ne se détourneraient du droit chemin, de peur de rencontrer des chevaliers puissants, ou des monstres, bêtes sauvages, ou autres empêchements que le corps et le courage d'un seul homme peut mener à chef. Dix-septièmement, qu'ils ne prendraient jamais aucun gage ni pension d'un prince étranger. Dix-huitièmement, que, commandant des troupes de gendarmerie, ils vivraient avec le plus d'ordre et de discipline qu'il leur serait possible, et notamment en leur propre pays, où ils ne souffriraient jamais aucun dommage ni violence être fait. Dix-neuvièmement, que s'ils étaient obligés à conduire une dame ou demoiselle, ils la serviraient, la protégeraient et la sauveraient de tout danger et de toute offense, ou qu'ils mouraient à la peine. Vingtièmement, qu'ils ne feraient jamais violence à dame ou demoiselle, encore qu'ils les eussent gagnés par armes, sans leur volonté et consentement. Vingt-et-unièmement, qu'étant recherchés de combats pareils, ils ne le refuseraient point, sans plaie, maladie ou autre empêchement raisonnable. Vingt-deuxièmement, qu'ayant entrepris de mettre à chef une entreprise, ils y vaqueraient nuit et jour, s'il en était rappelé pour le service du roi et de leur patrie. Vingt-troisièmement, que s'ils faisaient un vœu pour acquérir quelque honneur, ils ne s'en retireraient point qu'ils ne l'eussent accompli ou l'équivalent. Vingt-quatrièmement, qu'ils seraient fidèles observateurs de leurs paroles et de leur foi donnée, et qu'étant pris prisonniers en bonne guerre, ils paieraient exactement la rançon promise ou se remettraient en prison, au jour et temps convenu, selon leurs promesses, à peine d'être déclarés infâmes et parjures. Vingt-cinquièmement, que, retournés à la cour de leur souverain, ils rendraient un véritable compte de leurs aventures, encore même qu'elles fussent quelquefois à leur désavantage, au roi et aux greffiers de l'ordre, sous peine d'être privés de l'ordre de chevalerie. Vingt-sixièmement, que sur toute chose ils seraient fidèles, courtois, humbles, et ne failliraient jamais à leurs paroles, pour mal ou perte, qui leur en pu advenir. Vous le voyez, mes enfants, sans que j'aie besoin de vous le dire, il y a dans cette série de serments, dans ces obligations imposées aux chevaliers, un développement moral bien supérieur à la société laïque de cette époque. Des notions morales si élevées, si délicates, si scrupuleuses, si humaines, émanaient évidemment du clergé chrétien. Le clergé seul alors pensait ainsi des devoirs et des relations des hommes. Son influence fut employée à diriger vers l'accomplissement de ses devoirs, vers l'honnêteté de ses relations, les idées et les coutumes qui avaient enfanté la chevalerie. Elle n'avait pas été instituée dans un si pieux et si profond dessein pour la protection des faibles, le maintien de la justice, la réforme des mœurs. Elle avait été, à son origine et dans ses premiers traits, une conséquence naturelle des relations féodales et de la vie guerrière. La sanction des liens qu'elle établissait et des sentiments qu'elle suscitait entre les divers maîtres du même pays et les compagnons de la même destinée. Le clergé comprit promptement ce qu'il pouvait tirer d'un tel fait. Il s'en fit un moyen pour travailler à établir dans la société plus de paix et dans la conduite des individus une moralité plus exigeante. C'était là l'œuvre générale qu'il poursuivait. Et si je pouvais vous faire entrer plus avant dans cette étude, je vous montrerai dans les canons des conciles du XIe au XIVe siècle l'Église s'appliquant à développer de plus en plus dans la chevalerie, dans cette institution d'abord essentiellement guerrière, le caractère moral et civilisant que les documents de la chevalerie elle-même viennent de vous faire entrevoir. À mesure que la chevalerie apparaissait de plus en plus sous ce caractère à la fois guerrier, religieux et moral, elle prenait plus d'empire sur l'imagination des hommes, et de même qu'elle s'était intimement liée à leurs croyances, elle devint bientôt l'idéal de leurs pensées, la source de leurs plus nobles plaisirs. La poésie s'en empara comme la religion. Dès le XIe siècle, la chevalerie, ses cérémonies, ses devoirs, ses aventures furent la mine où puisèrent les poètes pour charmer les peuples, pour satisfaire et exciter à la fois ce mouvement des âmes, ce besoin d'événements plus variés, plus saisissants, d'émotions plus élevées et plus pures que n'en peut fournir la vie réelle. Dans la jeunesse des sociétés, la poésie n'est pas seulement un plaisir, un passe-temps national. Elle est aussi une source de progrès. Elle élève et développe la nature morale des hommes en même temps qu'elle les amuse et les remue vivement. Je viens de vous dire quel serment les chevaliers prêtaient entre les mains des prêtres. Voici une vieille ballade d'Eustache Deschamps, poète du XIVe siècle, où vous verrez que les poètes imposaient aux chevaliers les mêmes devoirs, les mêmes vertus, et que l'influence de la poésie tendait au même but que celle de la religion. Vous qui voulez l'ordre du chevalier, il vous convient mener une nouvelle vie, dévotement à nos raisons veillées, péché fuir, orgueil et vilenie. L'Église devait défendre. La veuve aussi, l'orphelin, entreprendre, être hardi et le peuple garder, prud'hommes loyaux, sans rien de l'autrui prendre, ainsi se doit chevalier gouverner. Humble cœur est, toujours doit travailler, et poursuivre fait de chevalerie, guerre loyale, être grand voyagier, tournoi à suivre et jouter pour sa mie. Il doit tout honneur tendre, pour qu'on ne puisse en lui blâme reprendre, ni l'acheter en ses œuvres trouver. Et entre tous se doit tenir le moindre, ainsi se doit chevalier gouverner. Il doit aimer son seigneur droiturier, et dessus tout garder sa seigneurie, largesse avoir, être vrai justicier. Des prud'hommes suivre la compagnie, leur dit ouïr et apprendre, et des vaillants les prouesses comprendre, ainsi qu'ils puissent les grands faits achever, comme jadis fit le roi Alexandre, ainsi se doit chevalier gouverner. On a beaucoup dit, vous entendrez probablement dire, mes enfants, que c'était là uniquement de la poésie, une belle chimère, sans rapport avec la réalité. Je viens moi-même de vous le dire. Les trois siècles dont nous nous occupons, le Moyen-Âge est en effet une des plus brutales, des plus grossières époques de notre histoire, une de celles où l'on rencontre le plus de crimes et de violences, où la paix publique était le plus incessamment troublée, où la plus grande licence régnait dans les mœurs. Cependant, on ne saurait nier que la morale chevaleresque, la poésie chevaleresque, n'existasse aussi à côté de ces mœurs grossières et barbares de ce désordre social. Les monuments moraux sont là, en face des faits brutaux. Le contraste est choquant, mais réel. C'est précisément ce contraste, mes enfants, qui fait le grand et original caractère du Moyen-Âge. Reportez votre pensée vers d'autres sociétés. Par exemple, vers la première jeunesse de la société grecque, personnage héroïque dont les poèmes d'Homère sont le fidèle miroir. Il n'y a rien là qui ressemble au contraste qui nous frappe dans le Moyen-Âge. On ne voit pas que, dans les temps et chez les peuples des poèmes homériques, il y eut dans l'air, il pénétra dans l'imagination des hommes, des idées plus élevées, plus pures que leurs actions de tous les jours. Les héros d'Homère ne paraissent pas se douter de leur brutalité, de leur férocité, de leur avidité, de leur égoïsme. Rien dans leur âme ne surpasse les faits de leur vie. Dans la France du Moyen-Âge, au contraire, pratiquement les crimes et les désordres, le mal moral et social abondent. Cependant, les hommes ont dans l'âme, dans l'imagination, des instincts, des désirs élevés et purs. Leurs notions de vertu, leurs idées de justice sont très supérieures à ce qui se pratique autour d'eux, à ce qu'ils pratiquent eux-mêmes. Un certain idéal moral plane au-dessus de cette société grossière, orageuse, et attire les regards, obtient les respects des hommes dont la vie n'en reproduit guère l'image. La religion chrétienne est sans nul doute, sinon l'unique, du moins la principale cause de ce grand fait. C'est précisément son caractère de susciter dans les hommes une haute ambition morale en tenant constamment sous leurs yeux un type infiniment supérieur et pourtant profondément sympathique à la nature humaine. C'est au christianisme que le Moyen-Âge a dû la chevalerie, l'institution qui, au milieu de l'anarchie et de la barbarie de cette époque, a fait sa beauté poétique et morale. C'est la chevalerie féodale et le christianisme qui ont fait les deux grands et glorieux événements de ce temps, la conquête de l'Angleterre par les Normands et les croisades.